Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Next Episode, saison 2, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Et en l'an de plus de débats, peut-être plus de respect ou pas, et plus de tout, tout court, on est comme ça. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre la pilule A, la pilule B ou la pilule C. Prescription suivie à la lettre. À la lettre, vous l'avez ? A, B, C. Par mes deux patients du jour, Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Et Renan Cros, bonjour.
Bonjour, Charline Roux.
Non, normalement, dit bonjour, docteur.
Bonjour, docteur.
On parle évidemment de Maniac, dispo sur Netflix juste après l'info du jour. Et une bande-annonce pour la saison 2 de Marvel's Runaways, des fugitifs dotés de super-pouvoirs qui découvrent que leurs parents sont des super-méchants.
We all need to do better. Train harder. We are not superheroes, okay? We aren't good at this.
Nothing's more important than learning about who and what you are.
Yeah, that's right. That is how you do it.
Oui, c'est comme ça que ça l'effectue, tout à fait. une saison pleine de crump, hein, vous l'aurez compris.
Ah bah grave, pour cette moi j'ai crumpé 2. Pendant l'extrait.
La première saison nous présentait une super-héroïne lesbienne, fait suffisamment rare pour être soulignée, et on nous promet une saison 2 LGBT-friendly. Ça aussi, ça vaut le coup d'être signalé, mise en ligne le 21 décembre sur Hulu. Allez-vous regarder ?
Oui. Voilà, merci d'être
merci
venu.
Merci de ne pas élaborer.
Mais en fait, moi, ça m'a perturbé parce que les Runaways, c'était pas un groupe de rock à un moment ?
Si, tout à fait, bon. Joan Jett.
Ouais, Joan Jett. Donc j'ai cru qu'au départ.
Non, mais là, c'est Marvel's Runaways. Bah
ouais, mais j'ai
Il y avait
cru
un
au
indice
départ.
Dans le.
Bah
dans le
oui, mais bon, j'ai cru que c'était au départ un truc sur le groupe de rock. Moi, j'avais vu le début de la saison 1 que j'avais trouvé plutôt rigolo, mais c'était un peu noyé dans cette avalanche de séries qu'on avait de super-héros à une époque. Il y en a beaucoup qui sont morts en fait de ces séries de super-héros.
Il y a une époque, il y a un an.
Il y a un an, la vie change, Charline Roux.
Il y a 84 ans.
Il y a un an, on était tous différents. Voilà, réfléchissez
merci.
Sur cette phrase.
Non, tu tentes pas de relancer le hashtag.
Sous
maintenant,
le
tu attends le bon moment.
Molo, Molito, vive la France, bonsoir.
Anaïs, tu regardes ou pas ?
Non, je regarde pas. Un peu pareil, overdose de Marvel's blablabla, DC's blablabla.
C'est en bien fait, Marvel blablabla comme nom que vous avez.
Peut-être qu'on a un concept, mais non, a priori. Après, tu me dis LGBT friendly, ça m'intrigue.
Moi, je suis un peu hypée, je vous dis.
Ouais.
La bande-annonce fait envie.
Why not ?
Moi, j'y vais.
C'est diffusé en France un jour ou...
Je sais pas, c'est toujours sur Hulu, c'est crédité.
Ah bah oui, Hulu, oui.
Après, on peut... Non, on ne dit pas... Oh, dis donc
hey, alors,
ça suffit.
Qu'est-ce que...
Allez, c'est l'heure de votre traitement.
Do you know where you are right now?
I'm in a drug trial.
What do you think is wrong with you?
I'm sick. But I don't matter.
What would you say this trial is showing you about yourself?
Is this therapy now?
It's not therapy. It's science.
Deux inconnus, l'une dépressive accro au médoc, Emma Stone, l'autre schizophrène, Jonah Hill, se rencontrent pendant un essai clinique hallucinant et halluciné mené par un médecin, Justin Theroux, qui a des problèmes avec sa mère, Sally Field, et un ordinateur un poil trop émotif. En d'autres termes, beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes enfermés dans une même pièce pour voyager. Tout ça par Patrick Somerville et Cary Fukunaga. Le voyage vous a-t-il séduit ? Anaïs ?
Je suis assez mitigée. Le problème avec cette série, c'est que c'est une série qui mélange plein de genres différents et de tons différents. Et certains sont beaucoup plus réussis que d'autres. Pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il y a un manque d'originalité assez flagrant. On a de la science-fiction, mais qui rappelle beaucoup Légion dans les séries récentes ou Her dans les films, avec un rétro-futurisme dans les costumes et les décors. On a déjà vu un peu ça. c'est un peu du réchauffé, quoi. Donc ça, c'est un peu le problème qu'il y a avec cette série. Et puis après, l'avantage, c'est quand même le ton absurde qui manque un peu au début de la saison et auquel on arrive malheureusement un peu trop tard vers la deuxième moitié, où en fait, on a Justin Theroux et ses collègues scientifiques complètement absurdes, complètement déjantés, qui font n'importe quoi. Justin Theroux avec sa grosse perruque qui parle un peu comme s'il était en train de retenir une érection en permanence. Ça, c'est le côté qui m'a un peu plu dans la série. Mais voilà, à part ça, on est quand même sur du réchauffé. On a l'ordinateur qui parle, qui nous rappelle Hal. Enfin, voilà quoi, c'est pas très original.
Expliquons que l'essai thérapeutique, la prise de médicaments leur permet de voyager. Guillemets, c'est-à-dire d'explorer ouais, des voilà. genres différents et d'incarner d'autres personnalités.
Ça arrive quand même très tard. Ouais. C'est pas dans le premier épisode, je crois ouais. que c'est dès le quatrième. Je crois que c'est le quatrième.
Dans les deux premiers épisodes, ils ne sont pas en essai clinique.
Les deux premiers épisodes établissent qui sont les deux personnages. Et alors là aussi, il y a un gros problème de déséquilibre en fait, et de cohésion. C'est-à-dire qu'on a Jonah Hill et Emma Stone. Et Emma Stone fait du très bon boulot. Elle est très bonne et elle montre qu'elle mérite complètement son Oscar. Elle est très à l'aise dans tous les genres et tous les rôles qu'elle doit incarner. Jonah Hill, par contre, on voit tout de suite ses limites. Quoi. C'est-à-dire qu'il est, je trouve, hilarant quand il s'agit de faire de la vraie comédie. Mais ça arrive un peu tard, comme je disais, quand il va vraiment dans l'absurde, j'adhère complètement. Par contre, quand il essaie de nous attendrir ou de nous émouvoir, il n'y a rien du tout. C'est le néant, quoi.
Moi, ça marche. Pardon, excusez-moi. Ouais. Popular opinion, moi, je trouve Jonah Hill absolument merveilleux dans cette
mais
série.
Mais il parle un peu comme ça tout le temps.
Un
peu comme dans le Gus Van Sant. Le personnage un peu posé, un peu...
Après,
c'est à vous, je vous en prie.
Bonsoir. Après, ce qui est un peu terrible, c'est que je pense que Carey Fukunaga et Patrick Somerville, s'ils t'entendaient Anaïs, ils se jetteraient d'un pont, parce que la seule chose qu'ils ont envie, c'est d'être original. C'est-à-dire que c'est une série qui hurle.
Du coup.
Bah non, parce qu'ils ne parlent pas bien français. Donc...
Original, tu
vois. Original.
Ah, pardon.
Voilà. Ils sont vraiment. J'ai l'impression, en regardant Maniac, de voir un séminaire de pubard des années 90. Et ils sont autour d'une table, ils sont là. Ouais, ce serait cool, on serait à New York, mais ce serait pas vraiment New York. Tiens, c'est marrant, à un moment, il y aurait un koala qui ferait des échecs. Oh, c'est cool, un koala qui fait des échecs. Et il y aurait Emma Stone, et à un moment, bah, ce serait un peu un elfe, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, trop cool. Et en fait, ils mettent des couches d'idées.
Mais il n'y en a aucune qui réussit parce qu'en fait, tous ces univers.
Parce c'est des pitchs de pub, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, on sent qu'ils ne comprennent pas vraiment les univers qu'ils veulent s'approprier parce qu'on on a dans du thriller, on a
du film
un
noir.
Heist, voilà,
film noir.
Un braquage,
surtout,
on a un
sens.
Truc de science-fiction. Il n'y en a aucun qui réussit vraiment. C'est-à-dire il manque toujours un peu l'élément qui fait le succès de ces genres-là.
Arriver à ces scènes-là, donc ils sont en fait, on est dans leur esprit, et donc on nous a mis 3-4 épisodes à nous expliquer, en gros, que la série va être une métaphore de la fiction, et va être une métaphore du pouvoir de la fiction sur nos vies. C'est-à-dire, en gros, Maniac, ça parle de ça, c'est, en gros, on a tous en nous des failles, et les histoires nous permettent de retravailler ces failles. Et donc, ça décline ça. Mais c'est une idée plutôt belle. Mais en fait, tout ça, c'est noyé sur une avalanche de gags, de petits effets. C'est marrant, tu citais Spike Jonze et Her, et pour moi, en fait, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire que là, où Spike Jonze, dans Her, il est capable de construire un univers sur quelques idées, quelques décalages, eux, c'est du méga décalage. Hein.
Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, je déteste Her de Spike Jonze et donc j'ai bien aimé Maniac.
Non, en fait,
doit-on continuer cette émission répondez
si
sous le hashtag.
Alors, Carey Fukunaga et Patrick Somerville, qui sont donc à l'origine de cette série, ne parlent pas du tout comme ça, on n'est plus barre. C'est pas une idée originale, on le sait, parce que c'est adapté d'une série norvégienne.
Qui n'a
rien à voir. Ils n'ont pas la prétention d'avoir non
ça plus. Ça n'a rien à voir, la série originale.
Oui, je défends avec.
Non, parce que la série originale, c'est vraiment l'histoire d'un schizo, en fait. Et c'est vraiment l'histoire d'un personnage qui s'échappe dans sa tête. Et eux, ils ont établi toute une espèce de machine. Enfin, on sent quand même qu'ils ont énormément d'argent. C'est pas grave d'avoir énormément d'argent.
Mais c'est beau, en même temps,
mais
ça se voit.
Mais
bon,
ça sert pas. Enfin, moi,
c'est
ça m'émeut pas.
Beau, mais après, même dans la réalisation, moi, j'ai trouvé ça très, très plat. Et ça m'a étonné parce que Carey Fukunaga, il a quand même bâti un peu sa réputation avec le plan séquence très commenté qu'il avait fait dans True Detective dans la saison 1. Et en fait, depuis, il fait que des œuvres qui sont assez critiquées justement pour leur manque d'originalité. Beast of No Nation, il a été accusé de plagiat pour la plus belle scène du film qui effectivement avait déjà été faite. Et là, en fait, c'est pareil. Sur la réalisation, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, il y a pas, c'est joli. Il y a une belle.
C'est un cahier des charges, quoi. Ils font.
Ouais, non, c'est ça. Y a, les couleurs sont belles, les costumes sont très beaux, et je pense que la costume designer s'est vraiment éclatée parce que en passant de dans tous les genres et toutes les époques, voilà. Mais il y a rien de nouveau, il y a rien de d'original. Il y a pas de nouveaux concepts, il y a pas de nouvelles idées, quoi.
Parce qu'il y a Pascal Johnson qui fait un peu comme ça. Bonjour, c'est moi votre assistant.
Non, Joaquin Phoenix fait quand même beaucoup mieux le dépressif que Jonah Hill, quoi.
Mais il y a quand même, y a un problème de ton. Il y a un vrai problème de ton dans Maniac, c'est-à-dire que en gros, en permanence, les personnages sont à la limite de la parodie. C'est-à-dire que
ça ne choisit pas. Je suis d'accord avec
l'assistante dont j'ai oublié le nom, formidable personnage, hyper classe. On sent aussi
Azumi.
Voilà, merci. Qui est vraiment un personnage hyper classe. Elle apparaît, elle a une clope au bec en permanence, elle a des grandes lunettes. Et moi, quand je regardais la série, je me disais, ok, donc là, c'est que des cosplays pour le prochain Halloween à Central Park. Ça va être trop bien de s'habiller comme Maniac. Il y a un truc trop chic, trop stylé. Enfin, ils en font trop. Et en même temps, moi, j'ai vraiment.
Et en même temps, pas assez. Parce que, comme tu dis, dans la parodie, moi, vraiment, les moments où il y a Sally Field qui arrive et qui embrasse sur la bouche Justin Theroux qui est son fils dans une scène hyper gênante, mais je me disais, mais je veux plus de ça en fait, je veux qu'ils aillent vraiment très très loin dans la parodie et dans le côté complètement absurde, et en fait quand on y touche un petit peu c'est bien, mais effectivement ils auraient pu faire plus, et à côté de ça tu sens qu'ils veulent raconter quelque chose de voilà, ils veulent avoir un message, et le problème c'est que cette partie là pour moi est pas très réussie, quoi.
Alors, en fait, c'est pas grand chose à dire, c'est-à-dire à part du pouvoir de la fiction et ce que les histoires nous produisent, et qu'on a tous des failles en nous, merci.
Non, mais c'est quand même l'univers de la thérapie et de la psychologie est hyper intéressant, et
mais
en
pas
fait
du tout traité.
En fait quand ils y arrivent un petit peu, il y a quand même des observations mais qui arrivent vraiment par petites touches. Mais par exemple, quand on découvre que Azumi elle-même voit un psy alors que toute cette expérimentation est censée éliminer la thérapie en fait, et juste donner une pilule, on a plein de petites observations comme ça sur ce que veut dire la thérapie et sur tout ce qu'on retrouve dans l'inconscient des personnages qui en fait a été aussi dans d'autres scènes de leur vie réelle. C'est vachement intéressant, mais pareil, ils le développent
c'est
pas assez
théorique. Enfin, c'est vraiment un truc de scénario écrit à la main, c'est-à-dire que c'est des idées de scénario, c'est des idées de mise en scène, et à l'écran, on est un peu. Ah bon, l'ordinateur qui pleure. Donc à un moment, l'ordinateur se met à pleurer, c'est ça qui va avoir un impact sur le reste. C'est une très belle idée, mais en fait, à l'écran, c'est neuneux, c'est gnangnang. Enfin,
je préférais que ce soit un téléphone.
Bon, le
Stop, ça suffit, non ?
Allô ? C'est le monsieur de la dernière fois ?
Faut raccrocher, Mona, laissez-nous tranquille.
L'émotion est vraiment portée par Emma Stone, je trouve, qui est très très bonne. Et bon, après, son histoire est un peu plus développée aussi que celle de Jonah Hill.
Jonah Hill, c'est une situation, c'est pas une histoire, en fait. C'est ça voilà, très c'est différent. Ça. C'est qu'Emma Stone, on a le droit au background, à la faille. Jonah Hill, c'est vraiment une situation, c'est l'enfant mal aimé d'une famille de riches.
Voilà. Ouais, voilà. Mais après, dans le premier épisode, je trouve que c'est assez bien fait, sa position, où il y a cette. Encore une fois, où ça va vers la parodie, mais. Un tout petit peu, où il y a cet immense tableau de cette peinture de la famille, et où il y a un tout petit cadre à côté avec
Jonah Hill qui est assez chouette, mais qui n'est pas tenu parce
qu'il l'abandonne après.
Par exemple, la story d'Emma Stone dans le deuxième épisode, mais vraiment, moi j'étais paumé, je ne comprenais rien. En fait, il faut dire un truc, il y a des moments où on ne comprend rien de ce qui se passe. Il y a un moment, elle va voir une espèce de type qui détricote des papiers, et alors on est là, mais pourquoi ? Puis elle va voir une nana, on comprend qu'elles sont amies. Mais en fait, non, elles ne sont pas vraiment amies parce qu'elle fait semblant d'être amie. Enfin, c'est tout un jeu.
Bah oui, mais c'est toutes les trouvailles que je trouve intéressantes. Moi, dans cette espèce de futur très étrange, les ad buddies et les friends proxy,
ces
trouvailles-là,
c'est des nouvelles qu'ils ont.
C'est vachement bien.
Oui, mais c'est vraiment complexifier une histoire qui était déjà complexe à la base. C'est-à-dire que, quand même, on est sur une série où on rentre dans la tête des gens, où ils vont vivre des histoires par procuration, qui ne sont pas des histoires qui existent, mais qui sont des espèces de fantasmes intérieurs. Et on rajoute à ça un monde qui est encore plus compliqué, où il y a à nouveau aussi des systèmes. Enfin, vous voyez, c'est des fictions. La fiction.
Là, c'est le monde réel dans lequel il y a les
friends. Mais par exemple, à un moment, moi, je me suis dit, en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'inception ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tout ce qu'on voit depuis le début, c'est un truc qui n'existe
pas ? Mais ça, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on pense. Ouais. C'est-à-dire qu'ils jouent volontairement sur l'ambiguïté entre est-ce que, effectivement, c'est juste une expérimentation scientifique et est-ce que Jonah Hill, par exemple, est juste schizophrène ? Ou est-ce qu'il voit vraiment quelque chose et est-ce qu'il y a vraiment une connexion qui se passe entre les deux qui va au-delà de la réalité ? Et on ne sait pas vraiment.
Et c'est marrant parce qu'on parlait de Légion tout à l'heure, et moi j'ai beaucoup pensé à la première saison de Légion. Vraiment, il y a des points communs, on ne peut pas trop dire, mais voilà. Et je trouve que Légion est plus fou, va plus loin, me surprend plus, est plus sexy, est plus étonnant.
Et puis il est arrivé avant, quoi. Parce que par exemple, les scènes de danse un peu fofolles qu'il y a dans Maniac, on les a déjà vues dans Légion. Les costumes un peu vintage, futuristes, on les a déjà vues dans Légion.
Globalement, c'était Marocco, je suis en train de la. Voilà,
j'ai niqué Marocco.
C'est une phrase que je dis rarement, mais j'ai niqué Marocco. Voilà.
Bah, tu ne la rediras plus, s'il te plaît, parce que c'est quand même très très laid de dire ça.
C'est vulgaire.
Non, mais moi j'aime bien cette idée, les petites trouvailles qui émaillent ce qui est censé être leur présent. sont assez intéressantes. Alors
ouais.
Certes,
Aloy aussi est pas mal. La machine qui où son père est caché en fait au début et qui s'appelle Avoid, mais ça veut aussi dire avoid, donc éviter en anglais, et parce que son père est un père absent, quoi, une figure un peu décevante
dans une boîte.
Ouais, voilà, il y a des petites trouvailles comme ça qui sont quand même sympas, quoi.
Les ad buddies, c'est les publicités dans la réalité. Il y a un mec qui vient vous réciter les pubs sur lesquelles vous.
Comme ça, vous payez pas le.
Cognez généralement sur internet, et les friends proxy, c'est les amis en fait. C'est les amis virtuels qui en fait viennent finalement vous voir dans la vraie vie ou font comme s'ils étaient vraiment vos
amis. On paye un service pour avoir quelqu'un qui fait semblant d'être notre ami. Mais bon, on n'est pas si loin d'Instagram finalement. On peut complètement imaginer un futur dans lequel ça existerait.
Si la série était mieux écrite ou en tout cas plus pertinente, on aurait un trouble un peu à la Black Mirror en se disant « Ah ouais, tiens, finalement, ça pourrait arriver. » Et là, moi, je trouve que c'est trop cartoon, c'est trop gag. C'est vraiment.
C'est parce qu'il y a trop de mélange des genres, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à choisir, effectivement, entre la comédie, la satire.
Ils ont trop d'argent. C'est-à-dire qu'il y a Netflix leur a fait un petit chèque en blanc, et j'ai l'impression, je me demande d'ailleurs aujourd'hui Netflix, ils sont vraiment très contents du résultat parce qu'ils sont un peu avec un truc où déjà on leur dit il y aura pas de saison 2, donc de toute façon voilà,
c'est une sorte de plaisir quoi.
On peut pas faire James Bond et une saison 2 de
déjà. Et moi ça me pose de plus en plus un problème, ces espèces de séries qui sont en fait des films découpés en morceaux, parce qu'on est un peu là-dedans.
Oui, bah là ça se voit vraiment, par exemple, c'est très surprenant d'avoir des épisodes de 25 minutes et puis après des épisodes d'un peu plus d'une heure, enfin on sent que vraiment, et en fait, sans que ce soit vraiment justifié par la narration de la série, on se demande vraiment pourquoi ils ont décidé de découper de cette manière-là la
série.
C'est
très difficile à regarder sans. On peut pas picorer un épisode par-ci par-là. Ça demande quand même une concentration. Et il y a des moments. Moi, j'imagine les gens qui prennent l'épisode 4 en cours ou 5 et qui ne se rappellent pas, qui ont oublié, on comprend plus rien en fait. Donc moi, je suis un peu. En fait, ça m'emmerde un peu ce type de série.
T'es pas du genre à picorer, quoi.
Non, je suis pas du genre à.
T'es pas picoring style.
Je suis très Pringles, pas voilà.
Ce dont on n'a pas parlé, c'est de la musique qui est quand même très très bonne, je trouve. C'est vraiment autant la musique du générique qui est assez obsédante, mais même toute la musique de la série, et notamment dans les scènes finales où ça monte de plus en plus et on attend ça pendant tous les épisodes, qu'enfin il y a une espèce de confrontation qui arrive, et ça a un peu cet effet thérapeutique en fait, vraiment, où on attend la réalisation finale et ça arrive, et la musique joue parfaitement ce rôle-là, et ça c'était vraiment chouette.
Est-ce qu'on peut aussi être d'accord sur la prestation de Justin Theroux?
Bah, il est cool, Justin.
Quel homme parfait, magnifique. Je l'aime.
Et pourtant, il est vraiment pas à son avantage dans cette série. Hein. Tout est atroce, mais il est quand même merveilleux. On a envie
moi,
de
moi
voir
j'ai vraiment un peu de mal avec. Tout, pas lui, qui est vraiment génial, mais la surcharge du personnage. La première fois où on le voit apparaître, t'en raconter, c'est une scène de sexe en réalité virtuelle. C'est vraiment. On est sur du simili grotesque.
Ah, moi, je me suis frotté les mains, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai mise en photo de profil Facebook immédiatement. J'étais OK, c'est bon, I'm in.
C'est ma vie, putain, je suis.
Exactement.
C'est ainsi que vous pourrez retrouver Anaïs Bordage sur les réseaux sociaux. Cherchez la photo de Justin.
Voilà.
Non, et puis moi, l'idée que je trouve assez intéressante finalement dans la narration, c'est cette envie d'éradiquer la tristesse, qui est quand même une idée complètement absurde et idiote.
Oui, mais
en réalité,
mais
c'est l'idée
parce que c'est ça,
ouais,
le...
c'est que ça sert à rien de prendre un cachet, alors qu'en fait, il faut vraiment confronter tous les traumatismes qu'on a vécu, et ça prend du temps, et c'est pas juste en prenant une pilule qu'on peut effacer.
On met quand même énormément de temps avant de savoir exactement ce que veut raconter la série, au moins 4-5 épisodes avant de se dire ah oui, ok, donc le sujet.
Ah
c'est
non,
vraiment
bah
ça.
Moi je trouve pas. Moi je trouve que vraiment, moi le pilote, j'étais pas hyper convaincue. Je trouvais que ça manquait d'émotion, et en fait, à partir de l'épisode 2
avec Emma Stone,
avec Emma Stone, là je me suis dit ok.
Elle joue mieux.
J'ai de l'émotion. Elle joue mieux. Son histoire est effectivement plus facile à capter, je pense, que celle de Jonah Hill, qui est un peu dans son côté série judiciaire, en fait, avec un procès, tout ça.
Et surtout, il y a tous ces trucs où on croit que c'est un super-héros, en fait. Moi, vraiment, j'ai cru que c'était un super-héros.
Je trouve très dur sur le dossier de Jonah Hill, que je trouve
mais
vraiment.
Mais il est bien dans le film, mais je trouve que son personnage.
C'est pas un film, c'est une série.
Oh, ben voilà. On y est arrivé. Le lapsus qui prouve qu'il y a un problème là-dedans.
Non, moi, je trouve qu'il était parfois très bon et parfois frustrant parce qu'il est tellement dans la retenue. Et je pense que c'est complètement volontaire de sa part, mais pour moi, c'était trop, quoi. J'avais peur que, je sais pas, ses yeux éclatent à force de se retenir comme ça, de montrer la moindre émotion.
Épisode 9, celui que personne ne verra jamais.
Exactement. Embauchez-moi pour écrire la suite.
Je vous sens très mollo mollito sur cette série, c'est tout.
Très mollo mollito. Ouais.
Moi, j'ai aimé, je continuerai de détester Her de Spike Jonze. Je m'en fous.
Je suis maxi mollito.
Une recommandation.
Eh bien, puisque j'ai Ken Marocco, j'en ai une autre qui s'appelle. En fait, qui est une série qui n'est pas complètement réussie, mais on parlait d'éradiquer la tristesse, c'est le sujet, c'est Kidding, avec Jim Carrey, qui est une tentative de faire une série dépressive. joyeuse ou en tout cas une série dépressive féerique, ce qui à mon avis est pas complètement réussi. C'est l'histoire donc de Jim Carrey qui est un animateur pour enfants qui vraiment
le
va pas bien dans sa
vie.
Ouais, d'un programme télé pour enfants, ouais, qui a des marionnettes, c'est une sorte de Jim Henson, enfin voilà. Et il va pas très bien dans sa vie là, il a subi un deuil assez grave et en fait, tout le sujet de la série, c'est lui en fait qui veut se confronter à la tristesse. On lui dit bah non, toi tu dois être heureux en permanence, toi tu souris. Et Gondry traite ça avec une sorte de mélancolie, de distance, avec des effets de mise en scène, avec des marionnettes, voilà. Parfois, c'est un peu trop, c'est un peu chargé, mais vraiment, je trouve que la série est plus forte sur ce que veut raconter Maniac. Je pense que Keating le raconte mieux dans un format plus court et avec un vrai format sériel, parce que c'est vraiment le quotidien de ce personnage. Jim Carrey est dingo, et puis il y a une scène assez dingue.
C'est un pléonasme.
Ouais, c'est vraiment un pléonasme. Il y a une scène qui tourne pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux, qui est assez folle
en termes
en termes de mise en scène. Et puis on retrouve une actrice dont j'ai oublié le nom, mais Anaïs va m'aider, qu'on retrouve dans Garfunkel et Oates. Que j'adore, eh bien, répondez-nous.
Si vous avez le nom de cette comédienne,
je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui est vraiment une
Molo Molito. Elle était dans la Molo, un Molito.
Merci, Jarlène. Elle était géniale dans Garfunkel et Oates. Je suis désolée, j'ai oublié son nom, je l'embrasse.
Eh bien, vous êtes virée. Anaïs
Bah, moi, ma recommandation, c'est The Leftovers, une série.
Trop facile, attends, Leftovers,
mais
on peut pas.
Alors
j'en ai pas parlé justement pour paniquer Marocco. Mais en fait, tout le principe de Maniac, c'est le principe du meilleur épisode de The Leftovers, voire des deux meilleurs épisodes de The Leftovers, où en fait, c'est vraiment comment on arrive à se remettre de la perte d'un proche, comment on arrive à se remettre d'un traumatisme. Et notamment dans cet épisode de The Leftovers, qui s'appelle International Assassin, le personnage principal, joué par Justin Theroux, le meilleur de tous les temps, explore son inconscient pour résoudre justement certains traumatismes et pour avancer dans la narration. Et donc, on change de genre, donc on arrive dans le genre du thriller d'espionnage. Et c'est un épisode complètement barré et en fait qui dit beaucoup mieux, de manière beaucoup plus belle et complètement tarée, ce que Maniac essaye de dire dans sa saison 1. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de points communs entre Maniac et The Leftovers, puisque Patrick Somerville, le créateur de Maniac, qui a été scénariste de The Leftovers. On a Justin Theroux dans les deux séries. Et on a ce concept voilà, de psychologie et de traumatisme et de perte d'un proche qui est similaire. Mais The Leftovers, c'est absolument sublime et ça explore pour le coup de manière très profonde certaines questions, notamment celle du deuil. Voilà, vraiment, c'est sublime. Je vous le recommande absolument.
Marocco perso, c'est Maniac parce que je ne suis qu'un troll.
Mais
et que du coup,
cette
émission.
Perso maintenant
parce que je. Parce que c'est moi qui parle, en fait. Donc,
oui, c'est vrai.
Comme ça, très simplement.
Mais vous êtes merveilleuse, Charlie.
Mais c'est vous êtes merveilleux tous les deux. Merci beaucoup, Anaïs Bordage. Merci beaucoup, Ronan Crowe. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.